Vous avez des questions?
Oui, moi j'ai.
À un moment.
Bon, donc on a mis dans la séquence questions-réponses, informations que vous pouvez aussi apporter sur des cas que vous connaissez, qui sont intéressants de lutte dans ce genre de choses-là, d'organisation. Mais donc moi juste j'avais une question qui peut peut-être relancer ça, relancer le débat. On avait entendu parler il y a 3 ou 4 ans de massacre d'étudiants, une cinquantaine ou soixantaine d'étudiants qu'on n'a jamais retrouvés. Et donc c'était un petit peu de... Parce qu'on l'a peut-être pour certains d'entre nous encore en mémoire à ça, parce que c'était quand même assez, assez médiatisé, alors que les Chiapas ne sont pas du tout médiatisés. Savoir qu'est-ce qui avait amené ce massacre, qui l'avait perpétré, pourquoi, voilà.
Donc, c'est plus, ça fait
on n'entend pas trop bien.
Ouais, ça fait, donc en 2014, il y a eu 43 étudiants qui se sont fait de l'école... Les écoles normales, ils appellent ça, mais c'est les écoles d'instituteurs locales, quoi, qui se sont fait assassiner dans la ville de Ayotzinapa. Et donc, en fait, il faut savoir qu'il y a une réforme sur l'éducation qui a été lancée, qui a créé beaucoup de mouvements de grève. Et d'ailleurs, ça continue. Et ces étudiants-là, ils ont fait une manifestation et ils ont été massacrés, ils ont disparu. Voilà. Il y a eu des cendres d'os qui ont été retrouvées dans des espèces de fosses communes. Au niveau enquête, il n'y a rien de précis. En cause, il y a les gouverneurs de cette région-là qui sont mis en cause par les parents de ces étudiants-là. Le gouverneur, c'est quelqu'un du PRD, qui est le parti de la gauche traditionnelle au Mexique, on va dire. Ça peut être lié au narco. Le massacre aura été perpétué par l'armée. Donc il y a eu des occupations de casernes par les parents, il y a eu un mouvement dans tout le pays par rapport à ces assassinats-là. Mais c'est triste à dire, quoi. Ça illustre juste le chaos dans le Mexique aujourd'hui, quoi. Parce qu'il y a eu ces 43-là il y a 4 ans, il y en a eu une vingtaine un peu plus tard dans l'état Oaxaca, enfin, et il y en avait eu 40 et quelques il y a 15 ans, 20 ans, une quinzaine d'années au Chiapas, pour d'autres raisons, quoi. Voilà, c'est... Quand ça part, quoi. On sait pas où ça s'arrête. Moi, là-dessus, je vais pas pouvoir dire beaucoup plus, quoi.
Après, c'est toujours l'alliance, État, paramilitaire, narco, une espèce de mélange détonnant, et qui fait que si on s'exprime, on est en danger, quoi, tout simplement, quoi.
Depuis ce massacre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une loi de sécurité intérieure qui a été mise en place dans le pays, qui a été votée dernièrement, là, ces derniers mois. Et justement, du fait des violences qui étaient de plus en plus, qui mettaient de plus en plus en cause l'armée, de par son intervention dans les différents endroits, aujourd'hui, la loi de sécurité intérieure, elle permet à l'armée d'intervenir sur des conflits armés en toute sur des conflits sociaux et de le faire en toute légalité. Voilà, ça fait partie des réponses qui ont été données à ce massacre, parce qu'il y avait trop d'histoires où il y avait des abus de pouvoir de la part des militaires. Mais voilà, donc...
Ils feront la même chose, sauf que légalement, quoi.
C'est ça, ça ne sera plus des abus de pouvoir.
Voilà.
Ça sera normal.
Et ça, il y a des fortes mobilisations au Mexique contre cette loi. Il y a carrément les Nations Unies qui se sont dit très inquiètes par rapport au respect des droits de l'homme par rapport à cette loi. Et c'est un peu comme pisser dans un violon, quoi. C'est comme les lois chez nous, elles évoluent pas dans le bon sens. Mmh. Et,
après, on a entendu parler de ce massacre, mais dans tout le Mexique, ils retrouvent des charniers monumentaux qui peuvent être des charniers de migrants d'Amérique centrale vers les États-Unis, comme des charniers de gens de village complètement assassinés. Enfin, et puis ça se retrouve à Oaxaca, à Veracruz, à... C'est un État violent.
Bah, les États du Nord.
Un État qui contrôle qu'à moitié, parce que l'État est violent lui-même et le narco, enfin le narcotrafic a pris le pouvoir au Mexique. Quoi. On est un peu dans la même situation qu'en Colombie il y a quelques années. Quoi. Maintenant ça s'est déclassé et il y a une alliance claire entre État et narco. Voilà, c'est... Il y a une espèce de truc violent qui dirige, quoi. Voilà, sans que ce soit clairement établi, si c'est le narco tout seul, si c'est le gouvernement tout seul, si c'est les deux à la fois.
C'est tellement obscur et mélangé que difficile d'avoir une vision claire sur d'où vient cette violence. Elle est tellement généralisée que...
Mais finalement, au Chiapas, alors c'est comment maintenant? Parce que c'est une structure autonome, mais en même temps, on ne comprend pas où il leur reste pas de liberté, pas de liberté. Comment on voit la population extérieure, la population non indigène du pays, est-ce qu'elle s'intéresse à ce qui se passe là-bas? Est-ce qu'il y a des gens du pays qui vont aller voir ce qui se passe là-bas et pas que des gens de l'étranger ou...
Alors le Chiapas, déjà, c'est un État, quoi, un État fédéral. Donc dedans, il y a des indigènes, mais pas que. Il y a un tiers de la population qui est indigène. Donc si on dit indigène, c'est qu'il y a toute la culture qui va avec, la langue, tout ça. Et sur ce tiers-là, il y a des apatistes. Les apatistes, on est absolument incapable de vous dire combien il y en a. Ils ont dit dans le film, un chingo, il y en a beaucoup. Et moi, je ne peux pas en dire plus.
Et eux n'en disent pas
plus. Et eux, est-ce qu'ils vont savoir exactement combien il y en a? Sûrement mieux que nous, quoi. Mais bon, donc il y a quand même un État avec une capitale d'État, avec des gens élus à notre façon à nous, avec des élections, avec des partis. Donc l'État est dirigé normalement. Et à l'intérieur de cet État, il y a des régions autonomes qui ont été mises en place, mais qui ne font pas tout l'État, qui sont des endroits géographiques assez précis. Voilà, et dans des endroits de population à grande majorité indigène, et pas que d'ailleurs, on peut être zapatiste sans être indigène, quoi. Donc c'est un peu comme deux mondes qui coexistent. L'État, à part en envoyant des paramilitaires ou des militaires éventuellement, mais de moins en moins, ne met pas son nez dans les affaires des apatistes. Pas officiellement en tout cas. Ça va être tout avec ces stratégies de contre-insurrection, avec cette aide sociale, avec des évangélistes, avec des projets écotouristiques, avec... voilà, c'est pas une guerre déclarée, quoi. C'est pour ça qu'on l'appelle de basse intensité. Après, les apatistes eux-mêmes, ils ne vont pas attaquer ni essayer de convaincre, de prêcher ailleurs. Ils gèrent leurs trucs dans leur coin. Voilà. Après, ça a quand même essaimé dans la mesure où les apatistes sont en lien très serré avec le Congrès national indigène dont ils ont impulsé la création en 1996, lors des accords, en faisant le premier forum. Et donc, il y a énormément de rencontres entre les indigènes qui seront du Michoacán ou de Oaxaca ou du Chiapas. Donc il y a des gros liens. Et dernièrement, c'était une année d'élection. D'ailleurs, c'est quand? C'est bientôt.
C'est en juin.
Le Congrès national indigène a proposé un groupe de candidats, enfin, avec une candidate. Mais ils le présentent comme un groupe, c'est plusieurs personnes, ils n'envoient jamais une personne toute seule de toute façon pour faire campagne. Pas dans le but de prendre le pouvoir, mais pour parler de la problématique indigène, us et coutumes, droit à l'autonomie, etc. Et cette présentation de candidate a été largement impulsée par les zapatistes. Alors les zapatistes, c'était pas une zapatiste, parce que les zapatistes ont toujours dit non, on veut surtout pas rentrer dans ce jeu-là, mais c'était un peu une reprise d'initiative pour dire attention, parlons de notre problématique, reprenons la parole et surtout nos liens entre nous tous dans tout le pays. Voilà, donc leur influence est certaine et dans tout le Mexique et pas que chez les indigènes. Parce que ce côté autonomie des peuples, vu que comment voulez-vous croire en un État bienveillant? Bon, déjà ici, mais alors là-bas, c'est juste impossible, quoi. Enfin, les gens aussi cherchent des solutions, donc peuvent se reconnaître dans une parole zapatiste. Et de plus en plus dans une parole portée par les indigènes en général.
Et dans cette dynamique-là, par rapport à la campagne présidentielle, le Conseil national indigène a créé un conseil indigène de gouvernement. Et en fait, chaque communauté indigène de tout le pays a nommé ses représentants, a envoyé ses représentants dans ce conseil indigène de gouvernement. Et le fait d'essayer d'avoir une candidate justement à cette élection présidentielle, le but c'était de maintenir le lien avec la société mexicaine dans son ensemble pour faire converger les luttes, enfin partager justement ces histoires, que chacun partage son histoire, quoi. Et c'était pas pour dire on va faire ça, il n'y a pas de programme, parce qu'ils ont chacun, ils fonctionnent chacun à leur manière là où ils sont. Ils utilisent toujours le terme « on a notre géographie, notre calendrier », quoi. Vous avez le vôtre, donc voilà. Et là-dessus, ils restent super droits, ils sont super humbles, ils ne donnent pas de leçons. Ben ça d'ailleurs, peut-être que tu pourrais parler de la rencontre. Et donc régulièrement, pour garder ce lien avec le reste de la société, ils organisent des rencontres. Ça va être ce que disait David tout à l'heure, ça va être sur la science, parce que justement, ils se posent beaucoup de questions. C'est quoi cette science? À quoi elle sert? Où elle va? C'est pour quoi faire, quoi? Et puis, ils subissent aussi les problèmes liés au changement climatique, apparemment, par rapport à leur culture, quoi. Au niveau des dates de récolte, c'est de plus en plus fréquent. Les saisons sèches, saisons humides, ça commence à se décaler. Donc, leur savoir aussi, ils sont perturbés par tout ce qui se passe. Ils organisent des rencontres par rapport aux arts. Ils veulent voir un peu tout ce qui se fait partout, et puis eux, ce qu'ils font. Donc, ils ont fait une expo qui a tourné un peu en France avec des broderies qu'ils avaient faites. Et à chaque fois, ils reprennent un peu l'histoire mexicaine avec son art, les peintures murales, où ils racontent l'histoire à travers les peintures, quoi. Donc là, c'était à travers des tapisseries. Ils vont faire des rencontres un peu plus intellectuelles par rapport à l'hydre capitaliste, enfin... À chaque fois, ils ouvrent des portes, des rencontres, ils ont des moments de repli où ils bossent chez eux, puis il y a des moments où ils ont envie de pouvoir échanger et tout ça. Et eux, ils proposent toujours la main. Et la dernière qu'ils ont fait, en l'occurrence, c'était une rencontre des femmes qu'ils ont organisée dans le Caracol de Morelia. Et là, je ne sais pas si tu veux...
Mais je peux en dire deux, trois mots, peut-être.
Voilà.
Du coup, ça a eu lieu, si je ne me trompe pas, 8, 9 et 10 mars dernier de cette année, au Caracol de Morelia. Et c'était une... Enfin, ils l'ont appelé, intitulé « La première rencontre internationale des femmes qui luttent » ou « Des femmes en lutte », je ne sais pas quelle est la bonne traduction. Une rencontre sportive, culturelle, artistique et politique. Et c'était une rencontre organisée par les femmes zapatistes et pour les femmes du monde entier. Il y avait une banderole longue comme le bâtiment à l'entrée du caracol sur laquelle était écrit « Bienvenue à toutes les femmes du monde ». Déjà là, on a envie de pleurer quand on arrive parce que ça nous va droit dans le cœur. Et c'était un espace, pour le coup, où les hommes ne pouvaient pas entrer. C'était clairement indiqué dans ce qu'ils appelaient la convocation. Parce qu'en fait, il faut savoir que pour pouvoir accéder au caracol, il fallait en amont s'inscrire avec son passeport, donner son identité, parce qu'on ne rentre pas dans le territoire comme dans un moulin. Et du coup, était diffusée sur les réseaux sociaux une convocation dans laquelle était clairement inscrite l'intention de la rencontre et notamment le fait que ce soit une rencontre par les femmes, pour les femmes, duquel les hommes étaient non pas exclus, mais s'ils voulaient venir, et si vraiment ils avaient envie de venir, ils restaient à l'extérieur pour la logistique de cuisine ou autre. Et du coup, en fait, ça a été 4 jours, ça a duré 3 jours effectifs, plus un jour avant, un petit jour derrière, où on était a priori 7000, dont 2000 femmes zapatistes, d'après ce que les organisatrices nous ont dit. Et c'était 4 jours d'ateliers dans tous les sens, d'ateliers, de conférences, de musique, de spectacles, de théâtre, et qui étaient organisés par des femmes du monde entier, qui pouvaient proposer ce qu'elles voulaient, et en plus des tas de choses informelles qui se sont mises en place. Et ça a créé une émulsion incroyable, entrecoupée de discours, parce qu'il y avait quand même la présence d'apatistes qui était là, et elles géraient toute la logistique, mais également elles impulsaient l'événement, et elles lui donnaient une intention. Une intention antipatriarcale, anticapitaliste, et elles l'ont impulsé. Enfin, je suis encore un peu émue de tout ça, mais elles l'ont impulsé avec des termes d'une humilité incroyable. En fait, elle nous parlait de révolution, comme si elle me décrivait cette chaise. Il y avait aucun intellectualisme qui rendait les choses complexes. C'était juste, elle nous parlait de la vie, en fait, et n'importe qui... Moi, je suis pas hispanophone, plus, je comprends l'espagnol tant bien que mal, et en fait, j'ai compris tout ce qu'elle voulait dire. En tout cas, les mots, je les ai compris. Après, les sens, et je pense que je suis encore en train de le digérer, mais c'était... Il y a une volonté, je pense, de vulgariser un propos qui peut paraître hyper complexe, et qui, en fait, on nous parle juste d'approprier notre propre vie, de revendiquer qui on est, et surtout, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'elles n'ont pas arrêté de dire qu'elles n'avaient pas peur. Ça, c'est dit dans le film aussi. Donc c'était une rencontre féministe, principalement féministe, mais avec des coulisses anticapitalistes. Et avec ce credo-là, nous n'avons pas peur, et nous sommes là les unes pour les autres. Et en fait, d'un coup, on avait l'impression. Enfin, moi, j'ai eu le sentiment d'avoir 7000 sœurs là, et qu'on était de faire partie d'une communauté. Et c'est ça qu'elles ont réussi à créer, en fait, c'est de se dire, ok, on est toutes là, avec toutes nos histoires différentes. On vient de 4 coins du monde. Et en fait, aujourd'hui, on se reconnaît, quoi. Et on arrive à se regarder, et on arrive à se comprendre. Et quand bien même, on a des histoires complètement différentes. Et ouais, en fait, je sais pas trop quoi raconter de plus, mais.
C'est trop beau.
Ouais. Il y a la possibilité de trouver, si vous voulez, les discours d'introduction et de clôture de l'événement, qui sont des leçons de vie incroyables. Où elles parlent de leur propre histoire en disant toujours, comme vous le disiez tout à l'heure, nous. Il n'y a pas de jeu. Elles parlent d'elles en tant que collectif et de nous en tant que communauté de femmes, du coup, pour le coup. Et juste pour, si je peux terminer là-dessus, juste un moment qui pour moi était incroyable dans ce week-end, c'était le discours, je sais même pas comment appeler ça, c'était pas vraiment un discours, c'était un accueil en fait, avec un texte très long et qui était partagé par plein de monde, parce qu'il n'y a pas une personne qui représente le mouvement, c'est plein de personnes qui prennent la parole et qui le font avec leur propre intention, leur propre présence corporelle, et il n'y a pas d'experte. Et ça c'était super, et c'est pas ça que je voulais dire qu'en fait elles ont allumé 2 bougies, elles étaient deux apatistes, elles ont allumé 2 bougies sur la scène, comme ça, et d'un coup la lumière s'est éteinte, il n'y avait plus d'électricité sur le site, donc on s'est dit, merde, une panne d'électricité, et en fait c'était pas du tout une panne, on s'est retourné, et il y avait tous les apatistes qui avaient chacune une bougie dans la main, donc il y avait un mur de lumière de, je sais pas, 200 mètres de long derrière nous, plus 2 petites bougies sur la scène, et bon, bah c'était il y a eu un silence, j'allais dire de mort, mais pas du tout, hein, juste un silence de confiance et de joie et d'amour incroyable. Et en fait, on a pleuré, et après on allait se coucher. Enfin, moi je suis allée me coucher parce que c'était trop beau, je pouvais plus rien faire derrière ça. Et à la clôture, elles ont reparlé en disant, bon ben voilà, il y a 4 jours de ça, on a allumé 2 bougies, puis 2000 bougies. Il y a une bougie pour chacune d'entre vous. Et le jour ou l'année où vous perdez un peu la confiance, vous perdez la foi, vous savez plus si, voilà, comme, par où avancer, par où prendre les choses, ben. Repense à cette bougie, garde-la allumée et on y va, quoi. Et on va y arriver tout ensemble. Et ça, c'était un truc... Enfin, avec des mots aussi simples que ce que je dis là, et ça nous est rentré, en tout cas moi et les gens à côté, parce que ça reniflait quand même tous les coins, ça nous est quand même... ça nous a bien, bien touchés. Et elles ont fini en disant, l'an prochain, on vous réinvite à la deuxième rencontre internationale des femmes en lutte, Donc tout le monde là, ouais, super, génial, on sera là. Et elles ont conclu en disant, en fait, on vous invite pas ici au Caracol de Moralia. On vous invite chacune dans vos vies, dans vos quotidiens, dans vos collectivités, dans vos collectifs, au travail, à la maison, en fait, à lutter juste pour ce que vous êtes et pour vous défendre votre identité, quoi. On n'a pas besoin de venir à l'autre bout du monde, ça se passe aussi dans notre maison, quoi. Et ça, je trouvais que c'était hyper fort. Et tout ça, l'ont organisé en 2 mois. On a eu un peu de temps là après pour discuter avec des personnes qui m'ont dit, bah ouais, bon, en janvier, on s'est rencontrés entre personnes de différentes communautés. En février, on a commencé à préparer la logistique. Et en mars, vous êtes là. Voilà. 2 mois pour inviter 7000 personnes et que tout se passe nickel.
C'est des brutes.
Enfin, c'était incroyable. Je vous conseille d'aller lire des choses si vous avez l'occasion de regarder des images. Et du coup, il y a autant du sport que... tout ce qu'on voulait faire, on pouvait le faire. C'était super.
Et le café, alors, pardon. Parce que moi, je pensais que ce soir aussi, vous alliez dire, vous aviez... je pensais parce que je sais pas si j'ai projeté ou j'ai lu un truc sur papier ou vous aviez rencontré ces communautés qui font le café, qui est vendu vers le réseau...
Ben, le café, en fait, le café, on en achète depuis très longtemps, du café du Chiapas. Ça a été sous diverses formes. Le café, il y a une époque où on allait le chercher à Barcelone dans la voiture. Et puis on le ramenait et puis on le revendait autour de nous. Et puis il y a une époque où on l'achetait par l'intermédiaire des Allemands et on le revendait ici. Alors il y avait l'Ariège, il y avait Toulouse, il y avait le Tarn. Et puis jusqu'à ce que les Allemands nous disent qu'on n'y connaissait rien à l'économie, les anarchistes allemands, attention. Et du coup on a dit, banco, on va s'organiser tout seul, quoi. Et en fait, on a organisé cet achat de café, ça a commencé Tarn et Toulouse. Et en se disant, on va essayer de le faire pas seulement pour leur faire un débouché, mais aussi pour s'entraîner, nous, à l'auto-organisation. Voilà, à essayer de se démerder un peu entre nous, quoi. Et donc, on a commencé à importer du café en 2001. C'est ça ? Si, 2000-2001 ?
Un peu plus tard, c'est trop grave.
Ouais, ou deux, ouais, bon, enfin, bref. Et voilà, et avec un système que les nations importent, et ça se distribue avec sous forme de toile d'araignée, avec des relais. Bon, le café arrive à tel endroit, je vais vous dire des chiffres qui n'ont rien de sensé, mais avec 10 relais qui vont distribuer à 100 personnes qui vont dire, enfin, organisation en toile d'araignée, quoi. Et ça a évolué, et finalement, maintenant, il y a 9 associations.
Dans le sud-ouest, oui.
Dans le sud-ouest, qui fonctionnent comme ça. Donc, de l'Hérault à l'Ariège, à Véron.
La Tarn.
Tarn-et-Garonne. Tarn-et-Garonne. Ouais, ça.
Haute-Garonne, et ça va jusqu'au Gard. Voilà.
Voilà, et donc ce café est acheté aux coopératives Zapatistes des Altos de Chiapas, parce que bon, dans l'autonomie, dans la fabrication d'autonomie, il y a l'école, il y a tout ça, mais il y a aussi quelques moyens productifs pour vivre, quoi. Alors dans cette région, ça sera plus le café, dans la région de la Rucha, ça sera plus l'élevage et la panela, le sucre de canne, selon les régions, quoi. Et donc, le chiffre est pas très clair dans ma tête. On a à peu près 1000 familles à acheter ce café en France dans un achat collectif. C'est pas du café qui est acheté et revendu à des magasins qui vont revendre. C'est nous, on achète collectivement du café. Et sans faire de commerce, entre guillemets, avec. Pour les impôts, c'est du commerce quand même. Pour nous, ça n'allait pas, c'est juste on achète. On achète à un prix de... Non, le paquet ici de 500 grammes est acheté 7,50 €, quelque chose comme ça. Un tiers qui va à l'achat, un tiers qui va à transport, logistique, et un tiers qui tire un bénéfice. Alors, le prix d'achat est versé à la coopérative. Les gens qui font partie de la coopérative sont zapatistes, travaillent dans le respect de la nature. Il y a une certification bio, mais nous, on leur a dit que ce n'était pas la peine de payer pour la certification bio, par exemple, parce qu'en fait, on pouvait y aller en toute confiance. Ils ont un rapport à la terre qui est certainement plus clair que nous, quoi.
Que la connaisseur.
Oui, ça, c'est clair. Donc, bon, c'est pas la peine. Vu que nous, on ne marche pas dans un réseau boutique. Et un tiers, donc, de bénéfices qui est dégagé, qui sera reversé aux juntas. Et les juntas... vont décider elles-mêmes ce qu'elles font de cet argent. Quoi. Elles vont financer leurs projets et nous, jamais on impose que ce soit un projet ou d'éducation ou de maternité.
C'est une forme de subvention.
C'est un retour.
C'est une subvention.
C'est juste un retour, ouais. C'est, subvention, moi j'aime pas trop ce mot. En fait, ça vient de leur richesse à eux, ceux qui l'ont produit, juste on le fait revenir. On le fait revenir et vu qu'ils ne sont pas tous producteurs de café ou de chiapas, on fait revenir quelque chose qui est tiré de leur travail finalement, vu que ce tiers-là, il est en plus, mais c'est de leur café. Sauf qu'on le donne aux juntas et buen gobierno qui vont se le répartir entre juntas, parce qu'il y a des régions où il n'y a pas de café. Donc c'est peut-être moins facile de gagner de l'argent qui vient d'ailleurs, quoi, tout simplement. Donc eux, ils se font la répartition et ils financent ce qu'ils veulent avec.
En fait, c'est leur choix à eux d'utiliser l'argent comme ça.
Voilà. Autant eux, ils sont respectueux des autres et ils n'imposent jamais une façon de poser, penser, autant nous, on ne se sent pas le droit de dire « avec cet argent, vous ferez ça ». On a totale confiance dans leur façon d'agir et c'est eux qui voient ce qu'ils en font.
Ou l'argent
ne
devrait revenir
qu'aux
gens qui ont travaillé à la terre pour le café.
Ben ça leur revient de fait par l'achat, le fait qu'on leur achète le café. Parce qu'en plus, on est les seuls, en fait, leurs seuls acheteurs de café qui négocient pas, enfin, qui leur... On est les seuls à leur dire, le prix juste, c'est vous qui le définissez. On ne discute pas le prix avec eux.
C'est pour ça que voilà. C'était dit, vous n'étiez pas...
Non, on n'est pas des bons économistes, non. Mais on l'assume total.
Parce que, non, mais ça, c'est aussi parce que quand vous voyez commerce équitable, comme le commerce traditionnel, il y a un cours mondial. Le commerce équitable, il garantit un prix. Et par exemple, il y a des moments, le prix du café dans le commerce traditionnel, il est plus élevé que le prix qu'a garanti le commerce équitable. Mais il y a des boîtes de commerce équitable qui ont dit « Ah non, nous, on vous a garanti ce prix-là. On reste sur la ligne. » Voilà. Et donc, ils font comme les coyotes, c'est les acheteurs de café là-bas, quoi. Ouais, c'est les commerçants. Donc, nous, on joue pas là-dessus. Le prix juste, c'est vous qui savez ce que vaut votre travail. Donc, c'est vous qui définissez. Donc, nous, déjà, donc ça veut dire que la coopérative, elle a un prix plus... On le paye plus... à un prix plus fort que ce qui est vendu de par ailleurs, quoi. Et la coopérative aussi, par rapport à ce prix-là, elle fait un fonds. Elle garde un fonds pour les investissements en machines dont ils peuvent avoir besoin, parce que le travail du café, il y a des histoires de tri, de transport. Donc, ils ont leur fonds à eux, ils garantissent leur fonds à eux. Et puis ça leur fait aussi une avance, parce que vu que la récolte, elle est de plus en plus, elle démarre plus tôt, elle est très étalée, c'est de manière à rémunérer les gars, la production des producteurs de café, quand ça arrive, quoi. Et que les mecs, ils n'attendent pas, parce que le fait d'attendre aussi, ça augmente la pression qu'ils peuvent avoir des autres acheteurs, quoi, des coyotes, quoi. Donc la coopérative garde un petit peu sur ce prix-là, et le reste, les producteurs sont mieux payés que dans n'importe quelle autre coopérative. Et nous, après, l'excédent, c'est un bénéfice aux yeux des impôts, mais pour nous c'est un excédent. L'excédent, il revient à l'organisation. Voilà. Et justement, ça permet à l'organisation de le répartir de manière plus juste aussi, parce que les zones où il y a du café, c'est seulement deux caracoles. Voilà, donc il y en a trois autres où ils ne produisent pas de café. Donc là, c'est eux qui se débrouillent avec leur tambouille. Mais en tout cas, nous, là, quand on renvoie l'argent, c'est de manière équitable aux cinq caracoles. Quoi. Voilà. Et donc, aussi par rapport au fait qu'on diffuse le café ici, en fait, on parle d'achat collectif. Ça veut dire que pour avoir accès à ce café, on adhère à l'association, on signe une charte qu'on a établie au niveau des 9 associations de la région, où on dit que c'est un engagement solidaire avec eux, et que s'il y a un pépin aussi, parce qu'on n'est jamais à même de pépin, eh ben on reste solidaire, quoi. Parce qu'on demande aux gens, dans la mesure du possible, de pouvoir payer à l'avance. Voilà. Parce que nous, à la coopérative aussi, on leur paye un acompte de 80%. On leur paye les 20% quand ils arrivent, les 20% restants quand le café arrive ici, quoi. Voilà. Donc, il y a les papiers dans le Nord Aveyron, là, c'est Yves qui s'occupe de America Sol 12. Voilà, donc là, ça tourne depuis 15 ans au moins aussi, quoi. Voilà, donc au sud de l'Aveyron, il y a Chiapas Sol, le Lot, il y a Sol Kersi. Enfin bref, il y a 9 assos dans le coin qui diffusent le café de cette manière-là, quoi. Et on essaie de se voir régulièrement pour essayer d'avoir un fonctionnement cohérent sur... Et ce qui nous distingue aussi par rapport à d'autres groupes, c'est qu'on ne revend pas. On ne revend pas ce café. Pour nous, ce café, il est hors des questions de se faire du pognon dessus, quoi. On n'est pas des commerçants.
Et même si c'est pour des assos comme les ADG ici ou des bars associatifs,
c'est pareil. On a tenu une ligne comme ça jusqu'à maintenant, parce qu'après, pourquoi tu dis oui, pourquoi tu dis non, c'est ça commence à...
Donc,
pour ne pas être emmerdé,
acheter, hein.
Voilà. Après, il peut très bien y avoir... c'est une histoire de confiance aussi, puis de bon sens, quoi. Mais s'il y a un adhérent qui veut offrir son café aux ateliers du geste, il le fait, quoi. Voilà. C'est tout. Mais en tout cas, nous, en tant qu'asso, on ne veut pas rentrer là-dedans, quoi. Parce que ça ouvre trop de...
Paradigmatiquement, il est torréfié où, ce café ?
Alors, chaque asso a justement ce qu'on a... Au départ, on le récupérait torréfié à Barcelone.
Ah, ouais. Oui, mais on y allait plus souvent, on allait chercher, voilà.
Mais, comme de la voiture. Mais du coup, en fait, vu que ça s'est assez développé, en fait, et là, comme on s'est dit, bah, en fait, c'est à chaque asso a de voir avec qui elle peut travailler, quoi. Donc... Le Lot a son torréfacteur, ici, Tarn-Aveyron, on a le même torréfacteur, l'Hérault-Alcien, Toulouse-Alcien, avec l'Ariège, voilà. Voilà. On voit là où on est, quoi. Voilà.
Donc il arrive vert, il est stocké vert chez le torréfacteur pour nous, et il est torréfié 3 ou 4 fois par an.
Nous, dans le Tarn, on est passé à 4 fois pour alléger un peu les volumes, quoi, parce que on est plus de 250 adhérents dans le Tarn. Voilà, sur les 9 assos, il y a à peu près 1000 familles, entre guillemets, qui achètent ce café collectivement, quoi. À la coopérative, ils sont aujourd'hui pas loin de 1000 aussi, ils sont un peu moins de 1000 socios, donc associés, producteurs. Et la coopérative aimerait bien pouvoir accueillir d'autres producteurs, quoi. Parce qu'ils sont tous zapatistes, mais il y a d'autres producteurs de café zapatistes qui ne sont pas dans la coopérative, parce que... Il y a aussi une histoire de débouchés, quoi. Voilà. Mais quand on leur a expliqué que nous, comment on fonctionnait et qu'on n'était pas des commerçants, à aucun moment, même si eux, ils aimeraient bien pouvoir accueillir d'autres producteurs et écouler plus, à aucun moment, ils nous ont dit « ça serait bien que vous vendiez le café, quoi ».
Oui. Oui, voilà. Aucune pression. Ils étaient même touchés par le discours qu'on leur tenait, quoi. Voilà. Parce que, nous, on essaie juste de prendre exemple. Et voilà, même s'ils aimeraient bien qu'on en vende plus, enfin je veux dire, ils étaient très touchés et très respectueux du respect qu'on leur montrait finalement.
Parce qu'il y a d'autres groupes qui achètent le café à la coopérative, qui sont des groupes solidaires mais qui font du commerce, qui vendent dans des boutiques, qui sont... Voilà, et il n'y a pas... Mais c'est aussi marrant parce que par exemple, il y a un groupe d'Italie qui est venu en leur disant... dans tel endroit, ça serait bien que vous montiez une coopérative là, parce que nous on voudrait ça, un groupe qui soit dit qui les soutient. Les zapatistes sont des Non, nous, on ne veut plus de coopérative. Parce que la coopérative aussi, aujourd'hui, il existe deux coopératives, et ils ne veulent plus en créer d'autres, parce que coopérative, ça veut dire des comptes à l'État, quoi.
Des quoi,
des rendre des comptes à l'État.
Ah ouais. À l'État mexicain. C'est déclaré, il y a les impôts.
Aujourd'hui, il y a.
Oui, puis c'est s'en mêler avec l'État.
Ça veut dire contrôle, enfin, ça veut dire pression, ça veut dire fiscal. Il faut savoir qu'il y a.
Oui, puis c'est une entrée.
Au départ, c'était. Ça s'appelait la coopérative Moudvitz, montagne des oiseaux dans tout le. Et en fait, ils ont, pour des histoires fiscales, ils l'ont fait fermer, quoi. L'État là, voilà. Du coup là, c'est il y a chill, donc ils la tiennent super carré quoi. Ils veulent pas retomber dans le panneau. Il y en a une autre qui est, il y avait Tecum, je sais plus comment ça s'appelle, vers Morelia.
Tecum.
Donc là, ils en ont deux, mais ils refusent d'en créer une troisième. Par rapport à ce rapport à l'État justement, qui les met dans une situation. Et au sein de la coopérative, si on veut aller plus loin, ils ont trois, c'est déclaré légalement, ils ont trois responsables, mais il y a une histoire de charge et de rotation qui tourne. Ils appliquent quand même leur fonctionnement. Voilà. Mais ils ont des personnes responsables légalement, puisqu'ils sont reconnus.
Quelques permanents. Et oui, ton histoire d'Italien, là, ce qui est intéressant, c'est que. Malgré le besoin d'argent, eh ben, ils se sont quand même permis de dire « Eh ben non, votre argent, vous le gardez si vous voulez nous imposer quelque chose. » Ils sont hyper capables de refuser même un apport d'argent si ce n'est pas dans leur clou à eux. Et ça, c'est quand même assez fort, quoi, vu que la région n'est pas d'une richesse extrême, quoi.
Et alors, finalement, s'ils ont décidé de ne pas créer d'autres coopératives... comment ils peuvent augmenter. Il y en a des paysans qui ne sont pas dans ces coopératives.
Ouais, comment, ça veut dire que la coopérative accueillerait plus de coopérateurs. Elle grossirait. Mais la coopérative, et là nous, enfin on s'en est rendu compte en allant sur place, c'est que la coopérative, elle a des. Au niveau des coopérateurs, des socios, ils ont des envies, des projets, tout ça, mais c'est la junta qui valide.
D'accord.
C'est le Conseil des bons gouvernements qui valide. C'est pas la coopérative. La coopérative fait partie, même si elle est déclarée légalement, elle fait partie de l'organisation. Donc, c'est pas elle. Elle va impulser des trucs, elle va proposer faire des propositions, mais c'est la junta qui valide. Quoi. Si la junta n'est pas d'accord, la coopérative. Voilà. Et ça, c'est vachement. Ils sont vachement.
Ils sont hyper carrés.
Hyper carrés par rapport à ça, quoi. Attention, nous.
Et c'est quoi la philosophie qui sous-tend ça? Ça a l'air très autoritaire, alors qu'ils se disent hyper libres.
Et non, mais justement, la philosophie. Mais pour nous, c'est pas. C'est forcément,
c'est
pas.
Ouais.
Mais non, mais c'est la communauté qui compte avant tout, quoi.
La communauté dans son ensemble.
Et c'est pas une histoire, c'est une autorité.
Ça vient des Incas, ça vient de où chez eux, que ça vient de quelque part.
Mais ça, c'est un truc aussi.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut partager de cet ordre-là chez nous. Parce que c'est quand même une organisation qui nous paraît loin, mais qui, ici, on en prend part, ça nous intéresse, ça nous interpelle. Et c'est ce lien-là que j'essaie de cerner, quoi. Qu'est-ce qui nous relie à cette organisation sociétaire particulière ? Et qui nous interpelle, vu qu'on y adhère en quelque sorte en achetant leur café.
Mais ça, c'est à chacun de voir ce qu'il y retrouve. En tout cas, pour moi, ce que...
Ça pose question.
Oui, ben nous, par exemple, après, c'est... Nous, par exemple, dans notre village, on essaye de recréer le plus de liens communautaires dans la vie de village. Comme là, il y a des lieux comme ça...
C'est pour la mettre ici, quoi. Donc on achète leur café, c'est pour mettre quelque chose ici aussi, quoi.
Ouais.
Mais qu'est-ce qu'ils pourraient prendre d'ici, qu'on pourrait leur offrir aussi chez eux? Parce que je crois que c'est un partage.
Oui.
Et que c'est pas eux les tout bons, les dieux, là, qui vont nous enseigner maintenant qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit faire ici. Non, justement, c'est pas de cet ordre-là. Je crois pas qu'ils soient là-dedans.
Non.
Pas du tout. Je crois pas que c'est ça qui cherche. Non. Mais voilà, mais est-ce qu'ils sont conscients de ça et comment ils font passer ça?
Ben, je crois qu'ils ont avantage, eux, ça sera un cadeau, si on arrive à retrouver du lien communautaire. Plus il y aura du lien communautaire autour, plus eux, ils seront forts. Parce que pour l'instant, ils sont un peu comme à Notre-Dame, ils se sont peut-être sentis un petit peu seuls à un moment, ou pas. Enfin, plus il y a multiplication, le plus on avance, quoi. Après, nous, il faut qu'on recrée tous ces liens. Mais ils existaient avant. Puis ils existaient.
Si Notre-Dame existe, c'est pas pour rien.
Et oui. Donc, c'est peut-être que nous, on est en train d'arriver au bout de quelque chose et que peut-être il faut qu'on se recrée cette idée de communauté, quoi.
Je voulais savoir, d'où leur vient cette. Pas cette coutume, mais cette manière de gouvernance horizontale. Est-ce que c'est très très vieux et est-ce qu'ils auraient pu très bien faire une lutte avec un chef tous derrière, allons-y, quoi.
Oui.
Ça dans beaucoup de trucs, ça se voit comme ça, quoi. Pourquoi, d'où leur vient cette culture,
Non, mais il y a le côté précolombien de toute façon qu'ils ont entretenu. Mais en même temps, c'était pas tout rose l'époque précolombienne. Il y avait les cités-états avec à la tête le roi prêtre. Et donc donc c'était très pyramidal. Mais souvent on connaît ça. On connaît Tenochtitlan, on connaît les grandes villes mayas, tout ça. Mais il n'y avait pas que des villes. Il y a toujours eu cette histoire, on appelle ça Minga ou Tekyo, enfin le travail communautaire. Ça a toujours existé, même dans les cités-états, un moment où on va donner pour la communauté, on va donner du temps. Et ça date de l'époque précolombienne. Même si il y a eu des énormes cités-états avec un monarque qui décide d'aller faire la guerre pour moi, et je veux dire, ça n'a pas été tout rose.
Et puis leur culture est très orale, donc ça se retrouve aussi, peut-être on peut retrouver des trucs dans les contes. Il y a un bouquin là, Le Rouge d'André Aubry, Les Tzotzils par eux-mêmes, où ils parlent de leur fonctionnement avec les histoires de charges, où c'est vachement intégré dans les communautés. Par exemple, par rapport à des fêtes, qui était lié à la religion le plus souvent, mais la communauté, elle nommait un majordome. Après l'époque colombienne, ils l'ont appelé comme ça, quoi. Et ce gars-là, il avait la charge d'organiser la fête du village, mais il devait tout sortir de sa poche. Et souvent, on nommait le plus friqué, parce qu'il fallait qu'il redevienne.
Pour réajuster. C'est comme avec le café.
Et ça
la
on le retrouve.
On
le retrouve dans des contes, ces histoires de fonctionnement. Et puis après, il y a aussi autre chose, c'est que l'histoire, elle est souvent écrite par les plus forts, quoi. Donc l'histoire des pratiques communautaires, qui aura pu écrire ça, même chez nous, c'est difficile à
retrouver. Et oui, les conquistadors et les prêtres, surtout des prêtres qui ont écrit l'histoire de la conquête, ils étaient plus branchés par le côté pyramidal, quoi, en fait, qu'on avait abattu, quoi. Ils ont plus raconté ça.
Mais même chez nous,
ils n'ont pas vu l'autre, je pense. S'ils sont arrivés avec leur système européen hiérarchique, ils n'ont même pas vu qu'il y avait autre chose.
Ah bah, de toute façon, c'était juste une main-d'œuvre Oui, voilà, c'était limite des animaux, quoi. Enfin,
Tout à l'heure, vous avez parlé de la théologie, à un moment donné historique, de la théologie de la libération. Où est-ce qu'ils en sont? Il y a sûrement l'Église qui est sur ce terrain-là. Ils vont à l'Église. Par rapport au côté apport de la théologie de la libération historique, là, il y a 50 ans, où est-ce qu'ils en sont maintenant de ça? Est-ce que l'Église a un rôle ou bien c'est une Église des riches?
Il y a les deux. Par exemple, l'évêque de San Cristobal, il y a eu le connu Samuel Ruiz, qui est mort maintenant, a dû lutter contre sa hiérarchie constamment. Il a eu des pressions tout le temps parce que les riches de San Cristobal luttaient contre ce prêtre-là. Il y avait des affiches dans les rues avec on recherche, avec la photo de leur évêque, quoi, quand même. Et donc, il y a eu énormément de pression sous Jean-Paul II. Oui, non, mais tu vas te calmer, toi. Voilà. Et au bout d'un moment, après, il est mort. On a envoyé quelqu'un qui devait être dans les clous, un bon catholique romain, quoi. Sauf que il a hérité de la maladie des évêques du Chiapas, quoi. Et puis, il a commencé à comprendre les gens, son entourage.
Il y avait une petite voix qui parlait.
Voilà, et il a commencé à mettre parfois des habits traditionnels pour faire la messe, enfin, des choses comme ça, quoi. Donc, il y a quand même une lutte de l'Église romaine pour essayer de recontrôler tout ça. La théologie de la libération, c'est pas ce qui est le plus recherché par la hiérarchie, quoi. Et voilà, bon là en ce moment ils ont encore essayé d'en mettre un. Mais bon, petit à petit ils arrivent à le modeler. Après, là où ils ont, à l'époque du soulèvement, c'est surtout dans les années 70-80 là qu'ils ont. Que Samuel Ruiz a fait beaucoup de. Il y a eu beaucoup de réunions de catéchistes, en fait, des gens sortis des villages, quoi, où il y a eu beaucoup de discussions. Il y a un des commandants de l'armée zapatiste qui était un catéchiste, qui était... voilà. Pourtant, eux, ils se disent, sans Dieu ni maître, hein, ils acceptent que les gens soient religieux, hein, mais...
C'est laïque, hein.
Ah oui, c'est complètement laïque, hein, leur organisation.
J'ai l'impression que ça marche beaucoup par contamination. En fait.
Oui,
non, ouais. C'est pas les dogmes, c'est contaminé, une contamination.
Exactement, ouais. Et
c'est un peu ce qui se passe ici, des modestes. C'est par contamination.
C'est ça. C'est sévage.
Et bien, ils ont servi cette théologie à essaimer, à provoquer des rencontres, à provoquer des manifestations, dans ces réunions de catéchistes, énormément de discussions. Ils ont contribué à l'essaimage, en fait. Hein. Et l'évêque Samuel Ruiz, il l'appelait papa, quoi, le tatique. C'est un côté paternaliste. Mais qu'il n'est pas tant que ça, parce qu'ils sont hyper indépendantistes. C'était vraiment très respectueux de leur part, quoi. C'est pas le paternaliste, il va nous dire comment il faut faire.
Ils ont participé en tant que Chiapas au forum sociaux internationaux. Tunis.
Et ESLN n'était pas invité parce qu'aucun groupe armé était invité. Aucun. Même pas eux.
Après, ce qui a été très fort au niveau du Chiapas, c'est que les zapatistes sont passés d'une armée. L'armée existe toujours, l'armée zapatiste. Sauf qu'elle est complètement mise de côté. Avant, c'était eux qui décidaient, c'était eux qui organisaient. Jusqu'à ce qu'ils soient passés leur organisation civile, et là c'est les villages qui ont pris le devant, et l'armée zapatiste qui s'est mise complètement en arrière, quoi. Juste comme une force de pression, mais une pression pas sur les zapatistes, sur les autres, quoi. Et c'est ça qui est fort, parce qu'autrement, des mouvements révolutionnaires armés, on en a eu plein en Amérique latine. C'est que là, il y a un moment, ils ont dit non, là, c'est les villages. Et qui,
c'est la société civile.
Ils se sont organisés en tant que société civile.
Mais pareil, petit à petit, hein, parce que. Il y a des vidéos du début du soulèvement, en fait, où Marco s'y raconte, mais comment vous voulez détruire cette armée-là? En fait, c'est pas vraiment des soldats, parce que en fait, tous les fusils, toutes les armes qu'ils ont, c'est chacun qui s'est démerdé pour récupérer une pièce à tel endroit, une pièce à tel endroit. Ça n'a pas été un mouvement, il n'y a pas eu de financement extérieur, ça s'est fait dans la longueur, sur des années et des années. Donc sur 10, 15, peut-être plus d'années.
La version officielle dit 10, mais bon.
Ouais, voilà. Et du coup, ça n'a pas été des histoires de financement, sinon ils seraient tombés comme tous les autres dans des histoires de narcos. Et voilà, quoi.
Et après, pour l'organisation civile, et bien, ils avaient déjà quelques années derrière eux d'organisation de l'armée zapatiste avec réunion, assemblée. Et voilà, donc, enfin, je veux dire, c'est venu très facilement. Et après, et ben, c'est devenu de plus en plus efficace. Là, on y est allé 3 mois l'année dernière. Moi, on y était allé 3 mois il y a 5 ans. On a eu l'impression déjà d'une aisance supplémentaire incroyable qu'au niveau de la junta, quoi, de la fluidité, de comment se passaient les messages, les informations. Enfin, ils se disent, ouais, ça se fait en se faisant, quoi. C'est du machado, quoi.
Et cette armée, elle a dû être réactivée là dernièrement ou... Donc justement pour défendre. Non.
Ils jouent pas à ça, non.
Ils jouent pas. Ils communiquent, mais pourtant dernièrement il y a beaucoup de déplacés dans la région d'Oventique, justement pour des histoires de conflits entre partis qui sèment un peu le chaos dans les, et du coup il y a des communautés bases d'appui zapatistes. Il y en a une qui est déplacée en ce moment, quoi. Mais depuis 1995, ils n'ont jamais ressorti les armes. Le caracol de la Realidad s'est fait attaquer en 2014 aussi, où il y a un des gars qui s'est... Galeano, justement, s'était fait assassiner. C'est un groupe paramilitaire qui a détruit l'école, la clinique, et qui a buté ce mec-là. Ils n'ont pas sorti les armes, mais par contre, deux mois après, c'était reconstruit.
Ça me rappelle les petites choses. Là,
ouais, comme ouais, ça. Ouais. Bon, ils ont mis deux mois, ils ont fait une nuit. Hein. Ça, c'est
jamais.
Mais l'école, il y a
non, c'est...
Et bon, ça, ouais. c'est une pratique qui commence à être bien assise, qui peut disparaître, hein, qui reste pas bien, mais qui maintient une étincelle et qui rayonne vraiment loin. Quoi.
S'ils prenaient les armes, ils se feraient juste massacrer, quoi, parce que des armes, il n'y en a pas tant que ça. C'est, voilà. Par contre, dans le Mexique en général, entre les groupes paramilitaires, l'armée et
les narcos,
ils sont partout, quoi. Partout. Hein. Ils peuvent pas, quoi.
La France est marchande d'armes, par exemple.
La France est amie du Mexique.
Et bon, ça peut aller très très vite, parce que... Enfin, voilà, la ville de San Cristobal, par exemple, qui est un peu là où il y a tous les rassemblements, un peu un point de passage forcé par rapport aux zapatistes. Elle s'est étalée sur toutes les montagnes autour, et c'est clairement tenu par une mafia, quoi. Les quartiers, c'est une mafia. Et le narco commence à être vachement présent. Au niveau des véhicules, enfin ça, en 5 ans, c'est du délire, quoi. Le nombre de 4x4 de pick-up vitres noires qui se baladent, c'est du délire, quoi. Et bon, les évangélistes aussi ont vachement pénétré, donc tout ça, voilà, ça...
Ouais, c'est fragile, hein.
Mais va, pour moi, ça tient, quoi. C'est pour ça que...
À vous écouter, en défense, c'est plus pour l'impression que tout se renforce. Aussi bien la Ronda, c'est le gouvernement...
Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Et la violence à côté se renforce aussi.
De la maturité, et ça. Et puis de l'autre côté, le côté.
Il y a un rouleau compresseur. Ouais.
Mais c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai dit on a eu une impression de chaos, quoi. Chez les apatistes, c'est vécu, c'est clair, c'est limpide, ils avancent. Eux, c'est un rouleau compresseur local dans leur organisation, quoi. Mais tout autour d'eux, c'est un rouleau compresseur des narcos, du gouvernement, des paramilitaires. c'est le chaos extrême. Donc c'est pas leur façon de vivre leur organisation qui est fragile. C'est tout ce qu'il y a autour qui est menaçant, quoi. En fait, qui peut provoquer une fragilité pour eux. Et voilà. Et parce que ça pète dans tous les sens. C'est du délire, quoi. Hein. Nous, je sais pas, Chinalo, juste à côté d'Oventique, quand on y était, en 3 semaines, il y a eu 4 morts, quoi. 4 morts, parce qu'il y avait eu des accords entre le Parti Vert et le Parti Le Prix. Donc, des accords décidants, hein, la politique normale, quoi. Donc là, tu prendras ce village, on mettra une verte, et puis là, tu prendras ce village, on mettra un prix. Sauf que les gens du village, parce que même s'ils sont des gens de parti, les gens du village, ils ont du boulot. Délire là-haut, moi je veux pas une verte ici, donc quand ils veulent pas quelqu'un, et ben ça coule de fusil, quoi. Et donc ça c'était des embrouilles entre eux, quoi, entre partis, quoi. Mais Mais c'est aussi les embrouilles entre partis qui ont fini par provoquer que... Nous, quand on y était, ils ne touchaient pas aux apatistes, mais finalement, il y a quand même des populations déplacées à force, quoi. À force de violence. Mmh. Il y a, pour aller à Palenque, qui est 90 km, quoi. Bon, déjà, il fallait mettre 5 heures ou 6. Bah là, nous, quand on y était, vu qu'il y avait la lutte entre les deux mêmes partis, ils bloquaient la route, ils avaient cramé un bus de touristes, il fallait aller jusque dans l'état voisin, au Tabasco, et redescendre là. Enfin, c'était un temps fou, quoi. C'est des kilomètres en plus. Mais là, c'est même pas une histoire de zapatisme, une histoire de rien. C'est une histoire de chaos interne. Et là, on est dans des trucs hyper respectueux de l'État, quoi. De partis politiques. C'est assez chaotique tout autour.
Il y a des compagnies de bus légales et d'autres moins légales. Du coup, il y en a un qui se fait séquestrer par l'autre. Du coup, les autres ils bloquent la ville pendant 2 jours. Tu sais pas ce qui se passe. Voilà, c'est le chaos, quoi.
C'est
reparti, ça continue, quoi. Voilà.
Est-ce qu'il y a des correspondances par rapport à des situations similaires qui se passeraient ailleurs dans le monde? Ou est-ce que c'est vraiment la seule organisation comme ça qui se manifeste, qui est connue, qui est soutenue par l'extérieur? Ou est-ce qu'il y aurait d'autres groupements? Est-ce qu'ils auraient des liens avec d'autres organisations à l'extérieur de leur mouvement?
Ah ben, ils ont des liens, oui, avec les gens qui passent là-bas.
Non, mais qu'ils soient similaires à leur lutte, mais qu'ils se passent ailleurs.
Les Mapuches au Chili ressemblent peut-être un peu à ça. Ouais. Mais on les connaît moins et ils s'en sont pris.
Et en Afrique, en Asie, je sais
pas. Alors ça, sûrement, peut-être, mais ça, on n'est pas au courant, ouais. Quoi.
Donc il n'y a pas de ponts qui se font comme ça, ils se font
les,
pas,
les ponts, ils les font à chaque fois qu'ils invitent les gens, oui, à venir, les ponts, ils sont faits. Ils ouvrent les portes régulièrement.
Pour eux, les soutenir, parce que bon, c'est bien d'être en lutte comme ça, d'être soutenu par l'extérieur, mais c'est encore plus fort quand on sent qu'il y a un autre peuple qui est en lutte ailleurs et que du coup, ça se partage au niveau.
Mais justement, dès qu'il y a quelque chose qui se passe quelque part, par rapport à la ZAD, il y a eu des moments,
des communiqués de
soutien du Conseil national indigène. Ils savent, ils ont les oreilles aussi, les oreilles et les yeux grands ouverts. Donc quand il se passe quelque chose, ils essaient, quand ils ont assez d'informations, ils soutiennent.
Vous pensez au chapeau.
Mais il n'y a pas de...
Ouais. Si je peux ajouter un truc, enfin, au moment de cette rencontre, il y a eu plein de personnes de plein de communautés, que ce soit d'Amérique latine, des États-Unis ou d'autres, en fait, qui sont venus en soutien aux apatistes. Mais en fait, c'était un échange, c'était pas juste... justement, il y avait des femmes mapuches qui étaient là... Il y avait des femmes des États-Unis, je ne connais pas le nom de leur communauté, mais elles étaient là avec des cadeaux, avec... Mais c'était un dialogue, c'était pas juste elles qui venaient pour dire « Coucou, c'est super ce que vous faites ». C'était les apatistes elles-mêmes étaient en... Bah, je ne sais pas quel mot employer, mais étaient hyper reconnaissantes et hyper en admiration de ce qui était fait à l'autre bout du monde ou à l'autre bout du continent. Je pense qu'en fait, ça... Oui, ça... Enfin, moi, en 3 jours, j'ai vu... j'étais témoin de plein de dialogues, de plein de serrages de main, de plein d'embrassades, parce que un dialogue mutuel, quoi. Ouais,
il existe déjà, ouais. Il y avait des rencontres, les maires de la place de Mai, et après on le retrouve dans les communiqués. Il y a eu des rencontres. Alors après, c'est pas forcément les apatistes qui vont à l'autre bout du monde pour... ou peut-être, mais alors on n'est pas au courant. C'est souvent les autres qui viennent, mais oui, il y a du dialogue, il y a du soutien au moins par communiqué. Et voilà, après eux, ils ont toujours dit le meilleur soutien, oui, c'est organisez-vous chez vous. Donc ils vont suivre, soutenir Notre-Dame-des-Landes, soutenir tout ce qui peut se faire. Et voilà, alors est-ce qu'on peut dire que c'est similaire? Oui, c'est similaire, parce qu'il y a des gens qui collectivement essayent de s'organiser, de résister, de mener leur vie qui n'est pas celle qu'on essaye de leur imposer. Après, il n'y a pas la même pratique culturelle, donc c'est peut-être, ça coince un peu, c'est peut-être un peu moins fluide, ou peut-être la pression n'est pas la même à l'extérieur, mais moi je pense qu'il y a pas mal de trucs comme ça, à leur échelle, qui peuvent être similaires, ou qui au moins tendent à l'être, ou qui ont au moins peut-être ce désir, quoi. Même si chez nous, c'est souvent que la parole, c'est souvent du rapport de force beaucoup plus que là-bas. Là-bas, il y a un respect de la parole qui est incroyable, incroyable. en réunion, les gens ils s'écoutent, c'est juste incroyable. C'est... Ici, on a beaucoup plus de mal à pas imposer sa parole sur celle de l'autre, ou... alors que là-bas, c'est tout à fait naturel.
Et est-ce qu'il y a de la transparence avec les frontières, puisque, bon, c'est à côté, c'est le Guatemala, est-ce qu'il y a des semblants des vies semblables à leur organisation, à eux, sur les Chiapas? Mais est-ce que de l'autre côté de la frontière, bon, comme on peut voir de part et d'autre des Pyrénées, des façons de vivre semblables des populations qui sont dans les vallées nord ou dans les vallées sud, quoi, et les correspondances, est-ce que c'est une frontière, une vraie frontière dans le sens où cette culture-là ne traverse pas? Est-ce qu'il y a des relations ?
Il y a des relations, mais il y a des relations notamment parce que ça a été la guerre au Guatemala jusqu'en 96, une grosse dictature où il y a des centaines de milliers d'indigènes des montagnes limitrophes avec le Chiapas qui ont été ou massacrés, ou exilés, ou brûlés, ou disparus, ou tout ça. Et donc il y a pas mal de Guatémaltèques qui sont vivre au Chiapas en exil, tout simplement, quoi. Et qui ont vu cette organisation zapatiste se monter parce qu'eux, ils y étaient, quoi. Donc, va savoir s'il n'y a pas des Guatémaltèques au milieu des zapatistes. Après, en 96, ils ont commencé à revenir. Les accords de paix ont été signés et petit à petit, les réfugiés retournaient. Et donc, là, il y avait pas mal d'organisations qui n'étaient pas déclarées zapatistes, mais des gens qui étaient déjà organisés, quoi, qui étaient déjà en lutte. Et qui sont repartis chez elles. Alors après, c'est vrai qu'on ne connaît pas bien trop les expériences dans les villages, mais c'est évident qu'il y a eu, qu'il y a eu contact, quoi.
De par l'histoire, des échanges oubliés, quoi.
Et moi, je me rappelle avoir été observatrice dans une communauté où il y avait des apatistes et des réfugiés, et ça cohabitait, quoi. Hein, ça cohabitait. Donc, je veux dire, il y avait au moins prise d'exemple et vie commune.
Et au moins ce café, il est buvable. Tous ceux qui connaissent encore l'expérience du café sandiniste, désolé. C'est plus pareil.
Non, il est très bon ce café, il est très très bon.
Pourquoi vous rigolez?
Là, tu l'as pas bu.
Non, il se trouve qu'on est passé au Nicaragua quand on a voyagé. Et bon, les sandinistes, on voit qu'ils ont fait un sacré boulot, qu'ils ont vraiment servi, qu'il y a eu répartition de terres, que les fincas ont été récupérés par les peones, et voilà. Et sauf qu'ils ont eu le pouvoir trop longtemps, ils ont trahi tout ce qu'ils avaient fait, quoi. Et qu'ils ont fini par tout se mettre dans les poches chacun et devenir capitalistes comme les autres. Et on sent un travail, hein, je veux dire, dans les autres pays qu'on a traversé d'Amérique centrale, enfin là où il y avait de la culture, il y avait vraiment passé dans une ferme qui avait été répartie. Et donc il ne s'est pas rien passé, quoi. Il y a vraiment une révolution sandiniste, mais sauf qu'au bout d'un moment, il faudrait les obliger à se barrer, quoi. Et là, on a un garde-fou chez les apatistes, c'est la rotation qui est obligatoire, quoi. C'est chacun à sa charge, doit y passer, et le coup d'après, c'est quelqu'un d'autre. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de prise de pouvoir possible, quoi. Et ça, c'est hyper important, la forme. Et des fois, ouais, comme tu disais là tout à l'heure, la junta qui veille là, sur la coopérative, c'est aussi un gage de liberté que... Il n'y en a pas qui s'enrichissent au profit d'autres. Et c'est une histoire de garante de cet équilibre. Ils font vachement gaffe à ça, quoi. Et ça doit être important vu d'autres expériences, notamment celle du Nicaragua, où nous, on se disait, putain, mais ça va péter là-bas, mais c'est sûr, quoi, entre ceux qui parlent en dollars et les autres qui gagnent des Cordoba, quoi. Et comme par hasard, en ce moment, là, c'est la catastrophe, là, Nicaragua, là. Donc peut-être que c'est bien, des fois, de se mettre des garde-fous, quoi. Et que c'est pas de la restriction de liberté, c'est juste de la garantie que ça marche, quoi.
Une dernière question.
Je voulais juste, c'est pareil,
précision parce que je n'ai pas très bien compris. Ceux qui sont dans la coopérative, ils peuvent se retrouver à un moment dans la Honda, comment vous dites ?
Honda. N'importe qui, à partir
donc,
du moment.
Donc en fait,
n'importe voilà, qui,
ça,
voilà.
Ça circule.
Et de toute façon, la Honda qui va récupérer les sous de l'excédent va le faire pleuvoir sur toutes les Hontas. À partir du moment où vous êtes quelqu'un de la coopérative, vous êtes un zapatiste, donc vous en profitez d'une façon ou d'une autre aussi, quoi, de cet excédent. Et à partir du moment où vous êtes zapatiste dans un village, vous pouvez ou avoir une charge dans le village, ou dans le municipio, ou dans la junta. Enfin, dans la junta, donc, parce que la région, quoi, pour nous.
D'accord.
Voilà. La junta, c'est... En fait, voilà, il y a le niveau très local, le village, le municipe, c'est-à-dire plusieurs communautés, plusieurs villages. D'ailleurs, oui, voilà, les communautés, nous, quand on dit communauté, on imagine tout de suite, on partage tout. Communauté des années 70, une communauté, là-bas, c'est juste un village. Sauf que ça s'appelle une communauté, quoi. Enfin, c'est pas le même sens des mots, quoi, tout simplement, quoi.
C'est commun ici,
hein. Ouais, ben non, ça fait pas rêver, hein. Ça fait pas rêver, la communauté de communes.
C'est vrai.
Et après, la junta, c'est juste la région, donc plusieurs... voilà. Donc n'importe qui, à un moment, femme, homme...
Et c'est une charge.
Est-ce qu'il y a dans les villages, est-ce qu'il y a des dissidents, quand même?
Mais oui, bien sûr.
Et alors, comment est-ce qu'ils arrivent, ceux-là, à s'exprimer? Ou quel est leur mode d'action? Comment ils s'opposent?
Alors, si un village divisé, et ça veut dire qu'il y a plusieurs autorités, donc il y a plusieurs juntas. Il y a la junta des apatistes et puis il y a la junta des autres.
Et ils n'ont rien de commun, c'est chacun dans son coin.
Ah ben forcément, ils passent des accords entre eux, ils sont obligés de se parler.
Il y en a qui se parlent.
Pour donner un exemple, à San Andrés, qui est un village bon, un petit peu gros, mais il y a l'assemblée traditionnelle, il y a les apatistes et il y a les représentants de l'État. Et ben, par rapport à des problèmes liés à la prostitution dans le village, où il commençait à y avoir deux tapins là, dans le bled, ils se sont mis autour de la table et les trois ont dit on arrête ça. Donc ils sont dans des positions où ils ont chacun leur truc, mais à des moments, par exemple, là.
C'est pas un collectif, ça reste.
Il y a un danger. Et
par rapport à la communauté, ça va pas.
On arrive à se parler quand même.
Et ça dépendra du sujet.
Et ça dépendra du sujet, ça dépendra du bled aussi, de son histoire. Mais en tout cas, à San Andrés, ils ont réussi à faire ça, quoi. Du chapeau.
Alors, nous, on a été dans un village qui n'était pas zapatiste. Alors, c'était compliqué aussi, ça. Qui appartient à l'autre campagne. À un moment, les apatistes ont ouvert avec les villages qui s'organisent aussi, qui sont organisés dans une lutte, mais qui n'ont peut-être pas assez la niaque pour être à fond comme les apatistes, c'est-à-dire donner les jours de travail, ne pas recevoir les 1000 pesos de l'aide, machin, mais qui ont quand même une lutte, une organisation, voilà. Donc, bon, ils ont des rapports entre eux. Donc, ce village, il y avait... Bon, ben, qui a été tout uni à un moment zapatiste et qui a récupéré des terres de la finca où ils travaillaient petits, où leurs parents travaillaient, ils se sont répartis les terres. Après, il y a une première division. Bon, après, il y en a un qui a fait une bêtise, je sais pas. Alors, il y a ce côté dur d'être zapatiste, mais aussi il y en a un qui avait piqué des sous, qui a dégoûté un peu des gens, enfin bon, bref. Il y en a plein qui sont sortis de l'organisation zapatiste, mais qui après sont rentrés dans cette organisation, qui sont restés organisés, et donc qui ont pu participer à cette autre campagne là, qui était voilà. Il y en a qui, toujours ces mêmes gens qui avaient récupéré, qui se sont divisés parce qu'ils sont devenus évangélistes. Donc zapatistes et organisés, mais plus zapatistes, ils sont quand même vachement copains. Et bon, les évangélistes, ils sont un peu moins copains quand même maintenant. Mais alors, il y a des assemblées de tout le village où il y a tout le village. Il y a les assemblées que des apatistes, bon, c'est vite fait, c'est plus de famille. Il y a les assemblées de que ceux qui ont récupéré la terre, qui sont encore organisés, mais on enlève les évangélistes. Et dernièrement, il y avait un autre souci, c'est que les paramilitaires du voyage d'à côté venaient de leur piquer leur cimetière, d'occuper le cimetière, de tout casser, de tout ça. Alors, il y en a parmi ces trois groupes qui ont dit
Ah ouais, mais bon, c'est bon, on n'en peut plus, quoi, on va en refaire un ailleurs, stop, quoi. On va garder ce qu'on a, les terres, voilà. Et d'autres qui ont dit, mais non, il faut récupérer ce cimetière, vraiment, on va lutter pour. Alors du coup, il y a eu les assemblées spéciales récupération du cimetière. Et dedans, il y avait des évangélistes qui n'étaient plus dans l'organisation de la gestion des terres. Il y avait des gens qui sont toujours dans l'organisation, mais pas tous, alors que du coup, les autres, ils n'étaient plus dans... Enfin, c'est le bordel total, mais ils arrivaient quand même à se parler.
Ils sont d'accord pour essayer de garder leur cimetière.
Et du coup, eh ben, y a des, tous les soirs, il y avait réunion. Alors, des fois c'était ceux-là, des fois ceux-là, des fois c'était tous ensemble, des fois c'était que ceux. C'était assez impressionnant, mais tout le monde arrive à se parler quand même, quoi. Et à se respecter qu'on n'est pas de partout. Bon, après, les mauvaises langues, comme dans tous les villages de France et de Navarre, mais, et donc du Chiapas. Mais voilà, quoi. Mais il y a quand même ce côté assemblé. Ils arrivent à gérer la différence, quoi, quand même.
Eh bien, écoutez, on va vous remercier.
Merci pour ce témoignage.